Voilà, nous allons commencer cette session avec une première conférence. Pourquoi une croix? Et demain soir, pourquoi la croix? Pourquoi une croix? Historiquement, eh bien, nous pourrions dire que Jésus est mort sur une croix, bien parce que c'est comme ça qu'on condamnait à mort à l'époque. Hein, c'est à cette époque, les Romains, eh bien, ils utilisaient la croix pour condamner les criminels. Les premières crucifixions ont eu lieu, ont commencé à peu près en 71 avant Jésus-Christ, et puis ont continué pendant les premiers siècles. En fait, il paraît que c'est l'empereur Constantin, lorsqu'il s'est converti au christianisme, qui a mis fin à l'usage de la croix. Mais c'était la peine capitale pour tous les non-romains. Hein. Jamais un romain, un citoyen romain n'était crucifié, mais pour les non-romains, pour les esclaves, pour les brigands, s'ils prenaient des pirates, et parfois même pour certains prisonniers de guerre. La peine capitale chez les juifs, c'était la lapidation. Mais comme ils étaient sous le pouvoir des Romains, ils ne pouvaient pas exécuter quelqu'un comme ça. C'est pour ça qu'ils ont dû amener Jésus jusqu'à Pilate pour le faire exécuter. Et lui l'a fait à sa manière. C'est vrai que Étienne, un peu plus tard, ben, ils n'ont pas attendu que les Romains soient là. Ils ont exécuté tout de suite. Et donc lui, il a été lapidé. Hein. Le récit, l'histoire de la crucifixion de Christ, on pourrait dire pourquoi sur une croix, ben, Jésus a été trahi par un de ses disciples, vous le connaissez, Judas, hein. Il y a très peu de gens qui nomment leurs enfants Judas, je comprends pourquoi, mais il a été trahi et Judas l'a fait par cupidité, pour avoir quelques pièces, hein, la bourse était vide. Et bon, personnellement, j'imagine qu'il s'est dit, je vais vendre Jésus, mais lui, il va s'en sortir. Il va se tirer de là, il n'arrivera rien, mais moi, au moins, j'aurai l'argent. Et puis, ça ne s'est pas passé de cette manière-là, et puis, bon, il a eu quelques remords. Bon, ça, c'est mon interprétation, hein. Ne citez pas ça, ça ira pas loin. Mais ensuite, il y a eu, bien sûr, Judas les a remis aux autorités religieuses. Hein, donc les pharisiens, le Sanhédrin, tout cela, et eux l'ont condamné. Et Pilate s'était rendu compte que si eux désiraient la mort de Jésus, c'était par envie. C'est quand même triste. Hein. Le premier, c'est pour par cupidité. Les seconds, c'était par envie. Et puis alors, il est remis, parce qu'eux ne pouvaient pas l'exécuter, donc ils le remettent au gouvernement romain, le pouvoir politique. Et le pouvoir politique, eh bien, il l'évalue, et il le dit plusieurs fois. Pilate dit, mais je ne trouve rien qui soit digne de mort chez cet homme. Je trouve rien dans la loi romaine qui me permette de le mettre à mort. Il n'est pas coupable. Mais la pression de la rue, hein, ça existait déjà. La pression de la rue a fait que il a dit, bon, ben, si ça vous fait plaisir, et comme je ne dois pas avoir d'ennui, hein, s'il faut, l'empereur à Rome ne doit pas apprendre qu'il y a eu des scènes dans les rues de Jérusalem. Donc, si ça vous fait plaisir, eh bien, on va le crucifier. C'est triste, hein, comme, tout simplement. Mais cela n'explique pas pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour le sauver. Hein, il reste quand même une question. D'accord, Judas, un traître dans l'équipe. D'accord, les religieux. Jésus les avait appelés hypocrites déjà, ils n'étaient pas les plus sincères du monde. Et puis les Romains, bien sûr, on sait ce que c'est. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu pour le sauver? Et dans mes fréquentations avec nos amis musulmans, eh bien, pour eux, ils disent, mais c'est pas possible qu'il soit mort. Dieu a forcément intervenu et l'a empêché de mourir, parce qu'il ne laisserait pas mourir un tel homme. C'est une bonne proposition, et il y a des raisons. Dieu a délivré beaucoup d'hommes avant cela, hein, des prophètes, moindres que Jésus. Ils ont été délivrés. Mais ce que nous remarquons, c'est que, quand même, Jésus, lors de son ministère, et au fur et à mesure qu'il s'approche de la fin de son ministère terrestre, à partir de la deuxième moitié, eh bien, il commence à préparer les disciples. Il commence à leur dire, vous savez, un de ces jours, les Juifs vont me prendre et puis ils vont me mettre à mort. Et puis, Pierre lui dit, écoute, ça va, écoute, arrête. Tu sais que ça n'arrivera pas. Ils ne l'ont pas cru. Plus tard, il le répète encore, il ajoute encore quelques détails. Mais bon, eux ne prennent pas ça au sérieux, parce qu'ils savent que ça se passera autrement. Ils sont convaincus que ça se passera autrement. Et puis finalement, dans Marc chapitre 10, et versets 33 et 34, Jésus est vraiment, là il donne le maximum de détails, il est encore une fois, il a pris ses disciples, il a été à part, et puis il leur explique clairement. Et donc, je vous lis les versets dans Marc chapitre 10, et le verset 33 et 34, il dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme, lui-même, sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. » Trois jours après, il ressuscitera. On ne pouvait pas être plus clair. Finalement, tous les détails sont là. Jésus l'a dit à l'avance. Il a dit, voilà comment ça doit se passer et voilà ce qui se passera. Et donc, c'est quand même, on a comme le sentiment que c'était prévu. Jésus savait que ça devait arriver. Et même les disciples ne l'ont pas compris, mais ce n'est que beaucoup plus tard, un mois et demi plus tard, après Pentecôte, que tout d'un coup, ils verront. Ils disent « Ah, c'est comme ça !» Parce que le jour de Pentecôte, Pierre lui-même se lèvera dans la rue, dans une ruelle de Jérusalem. Et puis il dira aux Juifs, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il dit, Dieu avait un plan. Et puis finalement, vous, en faisant ce que vous aviez envie de faire, en agissant selon votre cœur, vous n'avez fait qu'accomplir le plan de Dieu. Lui, dans sa préscience, savait comment vous alliez vous comporter. Il a fait des projets en fonction de votre attitude et votre comportement, vos réactions. Et vous avez fait exactement comme il savait que vous feriez. Ils étaient entièrement responsables. Ils étaient tout à fait libres de faire. Et quand ils ont mis Christ à mort, ils l'ont fait parce que c'était dans leur cœur. Certainement, s'ils avaient les moyens, ils auraient fait pire que cela. Mais Pierre, tout d'un coup, il a compris. Peut-être qu'il s'est souvenu de toutes les paroles de Jésus. Il dit, mais c'était prévu. Il dira un peu plus tard, après une persécution, il aurait été arrêté, et le Sanhédrin lui dira, vous ne parlerez plus au nom de ce Jésus. Et alors, il rentre chez les disciples, et puis il dit, voilà, on s'est fait battre pour le nom de Jésus, alléluia. Et maintenant, on va prier pour que le Seigneur nous donne encore plus de courage. Et dans le courant de cette prière-là, donc dans Actes chapitre 4, et versets 27 et 28, il dirait, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Chose impossible jusque-là parce que Hérode et Pilate ne s'entendaient pas. Mais là, les ennemis communs, ça rapproche. Et ils se sont ligués. Finalement, ils sont devenus amis à partir de ce moment-là. Tout à l'heure, le frère parlait que Jésus est venu par la croix, il fait la paix. Ces deux-là, ils ont fait la paix. Mais pour les mauvaises intentions, mais voilà. Mais le plan de Dieu, le dessein de Dieu, pourquoi une croix ? Mais c'était le plan de Dieu. C'était prévu par Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu aurait prévu une telle chose, une croix, pour quelqu'un comme Jésus-Christ ? Encore, une croix pour un brigand, c'est assez triste. Mais une croix pour un juste, c'est encore très triste. Mais Jésus est mort, c'est pour répondre à un besoin. Dieu a vu un besoin chez l'homme. Et il a tellement bien vu le besoin qu'il a pu prévoir et concevoir une solution qui soit à la hauteur du besoin. Et ce que nous pouvons imaginer déjà, mais si il a prévu quelque chose d'aussi radical qu'une croix, c'est que la situation était grave. Déjà, le fait de la croix me donne une idée de l'ampleur du problème. Et l'origine du problème auquel Dieu, dans sa grâce, veut apporter une solution, est mentionnée dans le premier livre de la Torah, la Genèse. Dans notre Bible, c'est la Genèse. Et puis, c'est le premier livre du Pentateuch, premier livre de la Torah, pour ceux qui sont musulmans, ben, ils disent « Taurat », mais c'est les livres de Moïse, hein, c'est les livres de Moïse, et dans le premier livre de Moïse, le mot de Genèse, celui qui parle des commencements, eh bien, justement, je voudrais voir. Et ne réagissons pas en disant ben, « je connais l'histoire, l'histoire du péché originel dans le jardin d'Éden, ouais, je connais tout ça ». On ne connaît pas toujours aussi bien qu'on ne croit connaître. Et je vous invite à regarder avec moi, on va regarder de plus près certains détails. Pas le côté histoire, mais certains détails clés qui finalement que Dieu a relevés et auxquels Dieu s'est intéressé. Nous, on aurait bien voulu savoir quel était le fruit, quel était l'arbre. On aurait voulu savoir des choses, mais Dieu ne trouvait pas ça, c'est pas important. Hein? Donc, dites-vous bien que ça ne doit pas être une pomme. Hein? Même si vous avez, les messieurs, vous en avez une pomme d'Adam, là, ce n'est pas forcément cette pomme-là. Hein? Mais au Genèse chapitre 3, donc, vous savez, Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin, vous ne mangerez pas de ce fruit-là. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez, certainement. Donc, ils ont été avertis. Et puis alors, dans les 5 premiers versets de ce chapitre, il y a Satan déguisé en serpent qui vient, qui sait comment parler. Et il embobine la pauvre Ève, qui jusque-là n'a pas été confrontée à lui, donc elle n'est pas sur ses gardes. Mais au verset 6, il nous dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Premier détail, bien sûr, elle a vu, elle s'est imaginé qu'elle aurait quelque chose qu'elle n'avait pas avant, que ce serait utile pour elle. La connaissance du bien et du mal, finalement, ça ne nous rend pas service, hein. Parce que finalement, on porte plus sur la connaissance du mal que vers la connaissance du bien. Donc, on aurait mieux fait de ne pas le savoir. Mais voilà, les choses sont telles ce qu'elles sont. Mais il dit, elle en donna à Adam, qui a pris et il a mangé. Mais regardez ce qui se passe au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je m'arrête sur ce détail. Tout d'un coup, ils ont mangé de ce fruit, et puis il y a quelque chose qui se passe. Tout d'un coup, ils prennent conscience du fait qu'ils sont nus. Ça va certainement plus loin que la nudité physique. Parce que même s'il s'agissait de nudité physique, il n'y avait personne d'autre. Hein, c'est comme quand on est tout seul dans la salle de bain, on n'a pas honte. Il n'y a pas... Et puis, bon, les animaux, ben, ce n'est pas un problème. Et puis Dieu, ben, ce n'est pas un problème non plus. Donc, où est la gêne? Mais ils sont embêtés. Parce qu'ils essayent quand même, il y a ce sentiment, ils essayent physiquement de se couvrir. J'ai utilisé le figuier qui avait de grandes feuilles. Mais quelque part, ils ont le sentiment que ça ne suffit pas. Parce que dès qu'ils entendent la voix de Dieu dans le jardin, ils sont couverts avec les feuilles de figue. Mais il y a quelque chose qui leur dit que ça ne suffit pas. Donc ce n'est pas la nudité physique. Il y a quelque part, ils n'ont pas envie de parler à Dieu. Et ils ont été se cacher dans le fond du jardin, dans l'endroit le plus sombre, hein, où là, le feuillage était le plus épais. Il y a deux choses qui sont passées. Un sentiment de nudité devant Dieu, une prise de conscience de quelque chose. J'aimerais employer le mot culpabilité. Jusque-là, ils ne l'avaient jamais connu. Ils avaient été innocents jusque-là. Et tout d'un coup, la connaissance du bien et du mal, tout d'un coup, permet de se rendre compte qu'ils ont désobéi et ils se sentent coupables. C'est comme le gamin qui s'est mal comporté et puis papa arrive par la porte et lui, il a pas envie d'aller lui faire la bise. Et il a quand même envie de se cacher et de rester dans la chambre jusqu'au souper. Pourquoi ? Il y a quelque chose, c'est pas qu'il n'aime pas papa, mais il y a quelque chose, il se sent gêné. Et ils nous disent que, et puis quand Dieu parle à Adam et Ève, il dit « Pourquoi vous êtes cachés ? Ben, on a eu peur. » « Ah bon ? Pourquoi vous avez eu peur ? Depuis quand est-ce qu'on a peur de Dieu ?» C'est nouveau comme sentiment. Il y avait quelque chose qui a été brisé. Je vous propose le mot communion, relation. Culpabilité, communion, c'était le début de ce que veut dire le mot « le jour où tu mangeras, tu mourras ». La crainte de Dieu. Et ensuite, bien sûr, Jésus commence à s'adresser à chacun. Il parle à Adam, il dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « Si ce n'était pas pour la femme, hein, ce ne serait jamais arrivé. Ah, » Les hommes, ils n'ont pas changé hein, depuis. Qu'est-ce que la connaissance du bien et du mal, ça ne nous a pas rendu service. Il dit, Jésus, et vous savez, Dieu, on peut mettre la faute sur quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas pour ça que lui, il va voir l'autre. Hein. Chacun a pris son compte, pour son compte. Hein. Tous les trois. Hein. Adam, Ève et le serpent. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, parce que je ne vais pas lancer dans ce sujet-là, mais finalement, ce qu'on retrouve, c'est que le jugement que vont subir Adam et Ève et les descendants, ce sera, eh bien, souffrance, difficulté et retour à la poussière. Et c'est vrai depuis. On s'est tellement habitué que certaines choses ne gênent plus. On a l'habitude, je suis enrhumé. Oui, mais c'est grave. Ça n'existait pas. Ah, je vieillis. Ah, bah ça, c'est grave. Mais non, mais c'est normal. Avec le temps, on vieillit. Oui, non, mais c'était pas prévu à l'origine. Bah, un jour, on va mourir. Croyant ou non croyant, tout le monde dit, bah, un jour, on va mourir. Oui, mais on s'est habitué, pour nous, on dit c'est la vie, mais ce n'était pas prévu. Tout ça, c'est anormal pour l'homme. Dieu ne l'a jamais prévu. Et Dieu dira, et puis je veux souligner ces détails, Dieu dira à Adam, parce que c'est quand même lui qui porte la responsabilité, il dira, Adam, tu vas avoir affaire aux épines, aux ronces, tu vas gagner ta vie à la sueur, c'est par l'effort. Le travail existait avant, il gardait le jardin, mais ce n'était pas fatigant. Mais il dit maintenant, il faudra fournir de l'effort, ce sera une fatigue que de devoir gagner son pain quotidien. Et puis ça se terminera par la mort. Vous retournerez à la tombe, à la poussière de laquelle vous êtes venu. Et il nous dit, là dans le chapitre 3, donc, et au verset 22, dit l'Éternel, dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer, la main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Première lecture, hein, peut-être que c'est comme ça que vous avez réagi, la première fois, en plus, il rend la chose pire. C'est que maintenant, on ne peut pas vivre pour toujours. Ah oui, mais c'était une grâce. Parce que Dieu a dit, je ne veux pas qu'ils demeurent éternellement dans cet état. Et donc, il les empêche d'aller et prendre de l'arbre de la vie. En fait, il leur fait grâce. Et il nous dit après, au verset 24, qu'il les a chassés du jardin. Il dit, ah, encore, comme si ça ne suffisait pas. Ah, oui, non, mais c'est pour les faire revenir autrement. C'est une grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il a dit, je ne vais pas les garder dans le jardin dans cet état-là, je les chasse, après j'irai les délivrer et je les ramènerai dans un nouvel état et ce sera autre chose. Et c'est comme ça que la Bible se termine, dans l'Apocalypse. C'est de nouveau les arbres du jardin, l'arbre de vie, il est là, mais on est dans un autre état. La grâce de Dieu. Le début du livre, la fin du livre. Et Dieu cherche notre bien. Bien sûr, en passant, certainement, quand on vous a posé la question, et vous vous êtes posé, peut-être vous n'osez pas y le poser ici, mais ça passe à travers l'esprit, mais si Dieu n'avait pas mis cet arbre-là, après, il n'y aurait pas eu de problème. S'il n'y avait pas eu cette tentation. Oui, dans un sens, je suppose, et vous savez, avec si, on peut faire beaucoup de choses. Hein, nous, on n'est pas trop capable de deviner ce qui se passerait si. Mais on imagine, en tous les cas, on a nos idées. Mais ce qui est certain, c'est que sans une épreuve, il n'y a pas de confirmation. Si notre amour, notre engagement à Dieu n'est pas éprouvé, eh bien, il n'y a pas confirmation que nous sommes vraiment attachés à Dieu. Et les anges ont été mis à l'épreuve. Il y en a un tiers qui a échoué. Les hommes sont mis à l'épreuve. Dieu dit, moi je veux... Hein, c'est ça que les parents veulent avec leurs enfants. Ils veulent que l'enfant choisit de l'aimer. Et que l'enfant choisit d'obéir, que l'enfant désire plaire. C'est ça qui nous fait. On voit que l'enfant fait un effort de nous plaire. Ah, ça fait fondre les grands-parents. Hein. Parce que c'est ça, nous sommes créés à l'image de Dieu. On a ces désirs que Dieu a. Et Dieu veut nous voir venir volontairement à lui, le désirer, vouloir lui plaire. Et il a créé l'opportunité. Les épreuves sont là et ça nous permet, nous, de confirmer et d'affirmer notre attachement à lui. S'il n'y avait pas eu, si on était innocent, eh bien, on serait comme des robots. On fait ce qu'il y a à faire et puis c'est jamais ce qu'on a comme sentiment parce que c'est jamais éprouvé. Alors, les choses se sont passées de cette manière-là. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament et dans Romains chapitre 5. On va voir pourquoi Jésus apparaît sur la scène dans le Nouveau Testament. Donc Romains chapitre 5, Je commence au verset 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. L'apôtre Paul est en train de dire, en très peu de mots, il est en train de dire beaucoup de choses. Il a dit, il y a un homme qui a désobéi, nous savons que c'est Adam, un homme a désobéi, parce qu'il a désobéi, eh bien, le péché est entré chez lui, mais en plus, il le transmet à tous. La preuve, c'est que nous péchons tous. Et le péché entraîne la mort. Et l'apôtre Paul dit quand même, vous savez, mais Moïse n'a donné la loi que beaucoup plus tard. Donc entre Adam et Moïse, il n'y avait pas de loi qui dit tu ne tueras point, il n'y avait pas de loi qui dit tu ne voleras point, il n'y avait pas de loi qui dit tu ne commettras point d'adultère. S'il n'y a pas une loi et que je désobéis, mais il n'y a pas de loi, on ne peut pas me condamner. Mais il dit, mais les gens mouraient. Entre Adam et Moïse, les gens mouraient. S'ils mouraient, c'est parce qu'il y avait péché. Donc le péché était là, même s'il n'y avait pas de loi. Ce n'est pas la loi qui a fait que le péché existe, le péché était déjà là dans l'homme. Quand nous péchons parce que nous sommes descendants d'Adam, l'homme est pécheur parce qu'il est né d'Adam. Il n'est pas pécheur parce qu'il a péché. On n'attend pas que le petit enfant, quand il naît, on le considère innocent. Et à quel moment est-ce qu'il devient pécheur ? Là, il est déjà pécheur. Vous savez, c'est comme, je vais le dire autrement, mais un chien n'est pas chien parce qu'il aboie, mais il aboie parce qu'il est chien. L'homme pêche parce qu'il est pécheur, et il n'est pas pécheur parce qu'il pêche. Le péché est là, le péché existe, il est chez chacun d'entre nous. La preuve, c'est que nous mourons. Donc si tu crois que tu vas mourir un jour, donc sache que le péché est en toi, et qu'il y a un problème sérieux, et tu ne peux pas t'en défaire. Et Dieu s'est rendu compte, et Dieu dans sa grâce s'est rendu compte de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, il dit, ce qu'il a fait, il a dit, j'enverrai un second Adam. Et ce que nous voyons au verset 14, il dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est ce que je viens de vous dire, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, parce qu'ils n'avaient pas une loi qui leur était dit, mais Adam, lequel est une figure de celui qui devait venir. Il dit, Adam est quand même, il est à la figure d'un autre Adam qui doit venir plus tard. C'est-à-dire, la venue d'Adam, c'est une chose, mais il y avait déjà prévu, en créant Adam, Dieu a déjà prévu un second Adam. Finalement, Dieu n'a pas créé Adam, et puis après Adam, il a gâché les choses, et Dieu dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on va rattraper la situation? Oh. Non, Dieu avait déjà prévu un moyen de réparer avant de créer même Adam. Avant que le premier péché ne puisse être conçu, Dieu avait déjà prévu un second Adam, qui serait celui qui pourrait nous délivrer. Et le second Adam, qui est aussi le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, il nous parle de Jésus comme le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 45. Et alors ici, je reste en Romains 5, hein, je continue dans Romains 5, et à partir du verset 15 jusqu'à 18, et là, il nous est en train de parler de la grâce de Dieu, du don de la grâce, il nous parle de la justice, tout cela que Dieu veut nous apporter. Et au verset 19, alors là il y a le résumé de tout ce qu'il vient de dire, hein, c'est la conclusion de ce raisonnement. Verset 19 dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus juste. Parce que certains disent, mais pourquoi? Comment ça se fait? Adam a péché, et tout d'un coup, nous, des millions de personnes, nous sommes tous pécheurs. C'est pas juste. Oui, mais Dieu dit, je respecte la règle. Un seul homme, Jésus-Christ, peut mourir, et des millions peuvent être sauvés aussi. C'est le même principe. Parce que s'il fallait faire mourir quelqu'un pour sauver chaque autre, il n'y a que la moitié de la population qui pourrait être sauvée, et encore trouver autant de gens justes et dignes de mourir à ma place, il n'y en aurait pas. Hein. Mais il a suffi, comme il suffisait d'un seul homme pour que le péché se répande par tous les hommes, il a suffi d'un seul homme, Adam, sans péché, pour apporter la justice et les dons de la grâce de Dieu pour tous les hommes. Dieu est quand même juste. Et il dit, l'homme est pécheur, d'accord, je comprends. Steve, là, eh ben, il est né, même s'il est fils de pasteur, il est né pécheur. Et alors? Et oui, il n'a rien fait pour l'être. Et naître d'un pasteur, ça a été d'aucun avantage du point de vue péché. Il y avait le même cœur. Et alors, il dit, mais bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il dit, écoute, comprends d'abord, c'est vrai que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Mais comprends qu'aussi par un seul homme, je peux donner le pardon à tous les hommes. Et Dieu respecte cela. Donc, qu'est-ce qui arrive? Écoutez, je vais essayer de schématiquement vous le représenter, ce que Dieu a prévu. Il y a un homme, Adam, qui est créé. Nous sommes de la lignée d'Adam. Nous sommes descendants, et parce que nous sommes descendants, nous sommes pécheurs. Et parce que nous sommes pécheurs, nous mourrons. Dieu envoie un second Adam, qui n'est pas descendant d'Adam. Il n'avait pas de père terrestre. Il n'a pas hérité de la nature pécheresse. Jésus-Christ est né de la femme, mais il n'est pas né d'un homme. Il était sans péché. Comme Adam quand il a été créé. Et il nous propose une nouvelle lignée. Il dit maintenant, je vous offre l'opportunité, si vous le voulez, de demander à être transféré de la lignée de Adam, le premier, à être transféré dans la lignée du second Adam. Le premier, il a donné la mort à tous. Mais le second, Jésus-Christ, donne la vie. C'est pour ça qu'il nous dit, si nous sommes en Christ, ça change tout. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de transférer de enfant d'Adam à devenir enfant par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, enfant de Dieu. Et après, tout d'un coup, ça ouvre tout un autre héritage. En Adam le premier, nous avons hérité que de la misère. Mais dans le second, nous pouvons hériter de tout ce que lui a et tout ce que le Père lui a réservé. Et en particulier, une vie, une autre vie, différente de la vie que nous avions reçue par transfert et par conception et de notre maman. Ça, c'était une vie. En Jésus-Christ, on reçoit une autre vie que la Bible appelle vie éternelle. Il la distingue. C'est une autre vie. Ce n'est pas le fait d'exister, c'est le fait de vivre. Et en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une nouvelle existence, c'est une nouvelle vie. Et on vit pour autre chose. On dit, mais alors, pourquoi est-ce qu'on meurt encore alors? Et écoutez, on est dans cette période de transition entre le moment où le transfert s'est fait et le moment où les choses sont exécutées, hein, où on reçoit tout ce qu'on a en Jésus-Christ. On est entre deux, là. On est en pleine transition, là, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein. Si pour les autres, vous êtes encore avec le péché. Mais si vous avez, par la foi, reçu Jésus-Christ, vous avez accepté que Christ meurt sur la croix, et vous savez ce qu'il a fait sur la croix? Vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, ce qui était sur Adam, c'était les ronces, la sueur et la mort. Jésus sur la croix a goûté l'épine, la sueur, des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémané, et puis il a goûté la tombe. Tout ce qui était sur Adam, il l'a porté sur lui-même afin de nous offrir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Oui, les apôtres dans les Actes 10, ils disent « Tous les prophètes rendent témoignage de lui, que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. » C'est, il reçoit. Je n'ai rien fait pour recevoir la vie de ma mère. Elle me l'a donné la vie. Elle m'a donné l'existence. Quand je passe, je transfère à une autre lignée, celle de d'Adam, Jésus-Christ, hein, du second Adam, Jésus-Christ, eh bien, je reçois la vie. De la même manière. Et maintenant, si je l'ai reçue, si j'ai cette vie nouvelle, eh bien, c'est à moi de la vivre. Et de, même s'il y a une partie de moi qui est encore, hein, qui est encore sous les malédictions de l'ancienne existence, mais je commence à vivre les nouvelles choses aussi. Et donc, vous savez, ce qui est arrivé à Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé du fruit, c'est que tout d'un coup, ils se sont sentis coupables. Mais maintenant, il nous dit, si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui était venu sur eux quand ils ont mangé du fruit, eh bien, ça a disparu lorsqu'on appartient à Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand ils ont mangé du fruit, tout d'un coup, ils avaient la peur, une peur nouvelle qu'ils n'avaient jamais connue avant. Il n'y avait rien eu qui fasse peur. Les animaux sauvages, il n'y avait pas d'animaux sauvages. Ils étaient tous domestiques. Ils étaient tous gentils. Il n'y avait rien qui faisait peur. Hein? Ève, vous voyez les araignées comme ça, dire que c'est mignon. Il n'y avait rien à craindre. Mais il n'y avait peut-être même pas peur des souris. C'est quelque chose, hein, c'est paradis. Hein. Non, mais il nous dit en Jésus-Christ, il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Il n'y a plus cette peur. Elle a été enlevée. Pourquoi la chose a été réglée? Pourquoi une croix? Parce qu'il était nécessaire, à cause du péché d'Adam, il était nécessaire qu'il y ait une croix. Et que Christ subisse tout ce que la croix pouvait lui faire subir. Afin que moi, je n'ai pas à la subir. Et que je puisse en être délivré et avoir une vie nouvelle. Ça, c'est pour ça que les anges étaient tellement contents de dire aux bergers, quand Jésus est né, il vous est né un sauveur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Si les anges ont pensé que c'était une bonne nouvelle, c'est que c'était certainement une bonne nouvelle. Et quand je commence à penser, et quand j'imagine tout ce qu'on a en Jésus-Christ, je dis c'était une bonne nouvelle, meilleure que ce que je pensais à l'origine. Et plus ça va, plus je comprends de ce que Dieu a prévu en Jésus-Christ, plus je trouve l'évangile beau. Comment l'atteindre? Comment l'obtenir? Eh bien, il nous dit par la foi. C'est croire. Pas comprendre. Parce que si on comprend, on ne peut plus croire. Quand on comprend, on sait. Quand on croit, on a. Et la foi me permet d'obtenir ce que mon intelligence ne me permet pas d'obtenir. Parce que mon intelligence a des limites, surtout la mienne. Mais la foi, un peu de foi, me fait aller très loin et me donne des horizons beaucoup plus étendus. J'ai un monde, pour le pauvre gars qui dit « moi je ne crois que ce que je vois », il a un petit monde. Tandis que celui qui a la foi en Dieu, il voit loin, il voit dans l'éternité, il voit la grandeur de Dieu, il voit l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, il voit des choses que l'autre ne peut pas voir. Comme il a été dit tout à l'heure, lui il regarde là et dit, ils sont fous ces gens-là. Et oui, mais vous savez, Peu importe ce qu'ils pensent. La question, c'est que maintenant, je sais. Jésus a dit aux pharisiens, il a dit, si vous voyez vraiment, vous ne serez pas aveugle. Il dit, il y a des aveugles qui voient mieux que vous. Aveugles, la cécité, eh bien, mais par la foi, ils voient beaucoup plus que celui qui a une vue. Pourquoi ils croient ? Parce que Dieu voulait répondre à un besoin. Si vous êtes sans, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur, eh bien, vous pouvez le faire dès maintenant. Comme ça, vous pourrez vraiment célébrer la Pâque. Vous pourrez célébrer Pâques cette année de manière nouvelle, parce que ça aura un sens. Si vous avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre cœur, eh bien, ce n'est pas seulement « j'ai pas de péché et un jour j'irai au ciel ». Donc je peux commencer à vivre maintenant la vie nouvelle, la vie qui s'appelle la vie éternelle en Jésus-Christ. À chacun de se situer par rapport à tout ce qu'on a dit et de prendre ses responsabilités. Parce que nous sommes capables de prendre nos responsabilités. Dieu nous accorde cette responsabilité. Et pas de choix, c'est un choix. Prions. Père céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ce que tu as fait. Nous n'aurions jamais vu tout ce que tu as vu. Et nous n'aurions pas compris dans quelle situation nous étions. La preuve que les gens autour de nous, perdus, eh bien, ne se rendent même pas compte du danger dans lequel, qui les attend. Encore moins de se poser des questions. Seigneur, mais tu as pourvu, et tu as tout pourvu en Jésus-Christ. Nous sommes grandement reconnaissants. À toi toute la gloire. Seigneur, je te prie pour celui qui serait parmi nous, qui n'a pas encore réglé cette chose, qu'il se pose une seule question. Est-ce que la Bible l'affirme ? Ce n'est pas une question de comprendre, c'est une question, est-ce que la Bible l'affirme ? Et si toi tu le dis, eh bien c'est vrai. Et nous pourrons construire notre vie là-dessus. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous et celui qui vit maintenant, qui est assis à la droite, à ta droite, et qui intercède pour ceux qui t'ont reçu. C'est en son nom que nous prions. Amen.